des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous. Clotilde Saille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois cette émission des livres plein les oreilles, produite d'ailleurs par Canal M. C'est dans les bureaux, dans le studio que je me trouve en ce moment pour enregistrer cette émission, aidée en cela par mon camarade Mathieu Tessier. Au menu cette semaine, La Servante écarlate qui se revend comme des petits pains chauds au lendemain de la réélection de Mr. Trump. Du côté du Québec, c'est pas une bio, ce sont des histoires telles que nous les raconte Mariana Mazza. La bio, par exemple, d'Alexei Navalny. Tout ça, c'est à l'affiche, ainsi que quelques nouveautés internationales. Mais avant, tranche de vie de votre animatrice. Ouais, oui, ça m'arrive parfois. Un voyage, un événement, ça peut me donner des idées de livres audio à écouter. Cette semaine, c'est plutôt un gros chagrin qui va teinter la première partie de cette émission que je vais dédier à celle que j'appelais mon roc, ma raison de regagner assez vite mon domicile, ma sagesse, mon calme, mon inconditionnel, c'est-à-dire ma Philomène à moi. Oui, ma vieille Philo est aujourd'hui au paradis des chiens, si tant est que cela existe. Mais ça fait tellement du bien de penser qu'il est un Éden où, vous savez, où nos compagnons de route à poil, la plume ou à tout ce qu'on veut, s'ébattent en toute liberté, sans médaille, sans collier, sans uniforme, et puis surtout éternellement. Alors, au moment où je prépare cette émission-là, j'avoue que j'ai près de moi une grosse boîte de Kleenex. J'ai une couverture imprégnée de son odeur. J'ai une photo d'elle dans un cadre. Et puis derrière moi, il y a un panier vide, d'où elle me dérangeait quand elle trouvait que décidément, je travaillais trop. Alors, pour elle, pour moi, mais aussi pour vous, qui êtes sensibles à la présence, puis à l'absence de nos compagnons de route à quatre pattes, j'ai choisi des extraits de livres dans lesquels les chiens sont les stars. Cela fait 24 heures que Philomène ne me dérange plus dans mon travail. Et ça me dérange beaucoup. On va commencer par certainement le plus récent d'entre tous, Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin Defour. J'aurais pu exactement écrire ce livre-là. Bon, quoique c'est un petit peu prétentieux. Alors en fait, le résumé qu'on nous en fait, et que cette fois-ci je vais vous lire mot pour mot, ça oui, j'aurais pu l'écrire mot pour mot. C'est une histoire d'amour, de vie et de mort. Sur quel autre trépied la littérature danse-t-elle depuis des siècles ? Dans Son odeur après la pluie, ce trépied, de surcroît, est instable, car il unit deux êtres n'appartenant pas à la même espèce, un homme et son chien. Un bouvier bernois qui, en même temps qu'il grandit, prend, dans tous les sens du terme, une place toujours plus essentielle dans la vie du narrateur. Ubac, c'est son nom. La recherche du juste nom est à elle seule une aventure. Ubac n'est pas le personnage central de ce livre. Cédric Sapin Defour, son maître, encore moins. D'ailleurs, il ne veut pas qu'on le considère comme un maître. Le héros, c'est leur lien. Ce lien unique, évident, et pour qu'il a exploré, surpassant tellement d'autres relations. Ce lien, illisible et inutile, pour ceux à qui la compagnie des chiens n'évoque rien. Au gré de 13 années de vie commune pour lui, le lecteur est invité à tanguer entre la conviction des uns et l'incompréhension, voire la répulsion des autres. Mais nul besoin d'être un homme à chien pour être pris par cette histoire, car si pareil échange est inimitable, il est tout autant universel. Certaines pages, Ubac pue le chien, les suivantes on oublie qu'il en est un et l'on observe ces deux êtres s'aimant. Tout simplement. C'est bien d'amour dont il est question, un amour incertain, sans réponse, mais qui, se passant de mots, nous tient en haleine. C'est bien de vie dont il est question, une vie intense, inquiète et rieuse, où tout va plus vite, et qu'il s'agit de retenir. C'est bien de mort dont il est question, cette chose dont on ne voudrait pas, mais qui donne à l'existence toute sa substance, et ce fichu manque, ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher, et cette odeur, malgré la pluie, a jamais disparu. «
explique aussi avec beaucoup de douceur combien il est précieux pour un humain d'apprendre à se coucher par terre. Juste pour avoir le bonheur de sentir son chien s'endormir la tête tout contre lui. Vivre avec un animal oblige à déchiffrer, à reconsidérer l'espace et le temps. À l'instant où vous ouvrez la porte de la maison, le chien devine votre humeur. Et avant même que vous en ayez pris conscience, sait ce que vous avez dans la tête. Il a compris que vous allez l'emmener marcher dans la montagne, nager dans l'océan, traîner sur la plage, et que c'est au long de ces longues promenades, de ces pas enchaînés, que vous allez vous unir pour la durée d'une vie, étant simplement attentif à la soif et à la fatigue de l'un et de l'autre. Dans ce livre, l'auteur a une belle habitude, très signifiante à l'égard de son chien. Au plus fort de la chaleur, il lui donne à boire, de la bouche à la gueule. Ce texte est un précis d'intelligence et d'amour entre deux êtres que tant de choses pourtant séparent. Sauf une qui se profile dans le dernier quart du livre et que l'auteur évoque par cette simple phrase en parlant de son bernois vieillissant. Quand va-t-il comprendre qu'il est mortel ? Je crois qu'un chien n'a pas à savoir ces choses-là. Et c'est ce qui devrait le sauver. Et pourtant arrive la fin. Des pages d'abord inquiètes dans les entrailles de vétérinaires dévoués, puis déchirantes à l'aube des ultimes jours. À l'instant du départ, l'homme regarde la bête pour la dernière fois et sait désormais qu'il va devoir parler à quelqu'un qui ne lui répond plus. Et là, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal maintenant, vous pleurez. Quand elle est morte, j'ai fait incinérer ma chienne. Je suis allé chercher son corps congelé chez le vétérinaire et nous avons roulé ensemble, elle et moi, dans notre voiture, une dernière fois, pendant 50 kilomètres. Arrivé sur place, un homme a ouvert le haillon, l'a fait glisser sur un chariot, et avec une étonnante douceur a simplement dit « Ne vous inquiétez pas, on va en prendre soin ». À perte de vue, une lourde pluie de printemps tombait. Depuis 3 ans, ses cendres et sa laisse sont rangées sur la droite de mon bureau. Alors voilà, le livre que vous allez lire est un précis d'amour et de conduite, qui vous guidera peut-être jusqu'à cette frontière immatérielle au-delà de laquelle les chiens parlent aux hommes. Vous allez y apprendre d'étonnantes choses sur eux et sur vous-même. Pour ma part, ce texte a aussi réalisé un petit miracle. Au fil des pages et des mots déposés, il m'a permis de retrouver le merveilleux bruit des pas de ma chienne trottant dans la maison. La voix de ses conversations nocturnes et surtout, surtout, son odeur après la pluie.
Son odeur après la pluie, avec une préface de Jean-Paul Dubois. D'ailleurs, c'est un extrait de la préface qu'on vient d'entendre, mais le livre est signé Cédric Sapin-Defour et il est lu par Samuel Charles. Il est sorti en janvier 2024. Un conte maintenant, tiens, pour les plus jeunes. Un conte signé Marcel Aimé, Le chien. Un conte du chat perché, c'est lu par François Morel, ça dure 38 minutes, où il est question d'un chien aveugle qui sera abandonné par un maître aveugle et qui va être trouvé par deux petites filles. Pourquoi faisons-nous le bien ? Parce que c'est le vrai sujet de ce livre-là, de ce conte-là. Plus précisément, pour qui prenons-nous l'initiative d'effectuer un acte altruiste ? L'acte altruiste est-il par nature totalement désintéressé ? Vraiment intéressant ce conte de Marcel Aimé, parce que le pardon, le sacrifice, la générosité, le concept de l'altruisme, notamment envers le handicap, y est présent à chacune des pages. Un joli conte dont voici le début.
Vous parlez aussi bien qu'une personne, chien.
Vous êtes bien aimable, dit le chien. Mon Dieu, que votre panier sent bon. Voyons, qu'est-ce que je vous disais ? Ah oui, mon maître, je m'ingéniais à lui rendre la vie facile et pourtant, il n'était jamais content. Pour un oui ou pour un non, il me donnait des coups de pied. Aussi, vous pouvez croire qu'avant-hier, j'étais bien surpris quand il s'est mis à me caresser et à me parler avec amitié. J'en étais bouleversé, vous savez. Il n'y a rien qui me fasse autant de plaisir que des caresses. Je me sens tout heureux. Caressez-moi pour voir. » Le chien allongea le cou, offrant sa grosse tête aux deux petites qui lui caressèrent son poil ébouriffé. Et en effet, sa queue se mit à frétiller, tandis qu'il faisait avec une petite voix « Waouh, waouh, waouh !»« Vous êtes bien bonne de m'écouter, » reprit-il, « mais il faut que j'en finisse avec mon histoire. » Après m'avoir fait 1000 caresses, mon maître me dit tout d'un coup « Chien, veux-tu prendre mon mâle et devenir aveugle à ma place ?» Je ne m'attendais pas à celle-là, lui prendre son mâle. Il y avait de quoi faire hésiter le meilleur des amis. « Vous penserez de moi ce que vous voudrez, mais je lui ai dit non. »
« Tiens !» s'écrièrent les petites, « mais bien sûr, c'est ce qu'il fallait répondre.
N'est-ce pas ? Ah, je suis bien content que vous pensiez comme moi. J'avais tout de même un peu de remords de n'avoir pas accepté du premier coup. »
« Du premier coup ? Est-ce que par hasard, chien ?»«
Attendez. Hier, il s'est montré plus gentil encore que la veille. Il me caressait avec tant d'amitié que j'avais honte de mon refus. Enfin, quoi ? Autant vous le dire tout de suite, j'ai fini par accepter. Ah, il m'avait bien juré que je serais un chien heureux, qu'il me guiderait sur les chemins comme j'avais fait pour lui et qu'il saurait me défendre comme je l'avais défendu. » Mais je ne lui avais pas plus tôt pris son mal qu'il m'abandonnait sans un mot d'adieu. Et depuis hier soir, je suis tout seul dans la campagne, me cognant aux arbres, butant aux pierres de la route. Tout à l'heure, j'ai reniflé comme une odeur de veau, puis j'ai entendu deux petites filles qui chantaient, et j'ai pensé que, peut-être, vous ne voudriez pas me chasser ?
Oh non, dirent les petites. « Vous avez bien fait de venir. »
Le chien soupira et dit, en humant le panier, « J'ai bien faim aussi. N'est-ce pas un morceau de veau que vous portez là ? Mais dites-moi, petite, ne voulez-vous pas me conduire auprès de vos parents ? S'ils ne peuvent me garder auprès d'eux, du moins, ne refuseront-ils pas de me donner un os ou même une assiettée de soupe et de me coucher cette nuit ?»
Je vous rassure, c'est un conte qui finit très, très bien. Un autre livre où le chien est à l'honneur, celui-ci dont je vais vous parler, s'appelle Yes, Yes comme oui. C'est une jeune chienne, elle est donc le personnage principal de ce livre qui s'appelle Un chien à ma table de Claudie Hunzinger, qui avait obtenu d'ailleurs un prix, et je ne me souviens plus lequel là tout de suite, j'ai oublié de le renoter, mais bref... C'était le prix féminin, voilà, merci beaucoup à Mathieu. Bon, un soir, cette chienne-là surgit à la porte d'un vieux couple. Le vieux couple est composé de Sophie, qui est une romancière, une écrivaine, et Grig, qui est son vieux compagnon, son Grigou, comme elle l'appelle. Et à partir de là, c'est le destin de Yes qui va tenir à lui seul la narration du bouquin. Mais... en même temps, le thème du roman, c'est la vieillesse. Celle du monde, celle d'un couple et celle d'une femme, oui. Mais surtout, c'est aussi le contraire de la vieillesse, parce que dans ce roman, on n'accepte pas encore la défaite. Et grâce à l'irruption de Yes, cette chienne, c'est une espèce d'ode à la vie. Et puis alors, mes amis, la lecture de Marie-Christine Barrault, à elle seule, elle en vaut le détour.
Chien, ai-je crié à Grig, qui se trouvait dans son studio situé à côté du mien, à l'étage. Chacun son lit, sa bibliothèque, ses rêves. Chacun son écosystème. Le mien, fenêtres ouvertes sur la prairie. Le sien, rideau tiré jour et nuit sur cette sorte de réserve, de resserre, de repère, de boîte crânienne, mais on aurait pu dire aussi de silo à livres, qu'était sa chambre. Quand celui qui était mon compagnon depuis presque 60 ans, mon vieux Grigou, mon gredin, au point que je le surnommais Grig, lui, les bonjours m'appelaient Fifi. Les très bons, Biche ou Tibiche. Les mauvais, Sophie. Alors quand Grig est descendu de sa chambre, barbe de 5 jours, cheveux gris, bandana rouge autour du cou, sans âge et sans se presser, comme quelqu'un à qui on ne la fait pas, revenu de tout, revenu du monde qui ne le surprenait plus, ne l'indignait pas davantage, dont il avait accepté la défaite en même temps que celle de son corps, ce monde auquel il préférait à présent les livres. Alors quand il s'est approché, sentant le tabac, la fiction et la nuit qu'il adorait, grognant à son habitude d'avoir été dérangé, le chien est venu se réfugier à mes pieds, où il a roulé sur le dos, m'offrant son ventre piqueté de tétons. Ça m'est venu en un éclair. And yes, I said, yes, I will, yes. Je l'ai appelé yes. J'ai dit, je suis là, yes, et je me suis accroupie. Et j'ai passé mes doigts à travers le pelage feutré de son encolure, mêlé de longues tiges de ronces, de feuilles de bouleau, de débris de mousse, et trempé. La fuyarde avait pris la pluie avant nous. Elle venait de la pluie, de l'ouest, et sentait le chien mouillé. J'ai cherché s'il y avait une plaque au collier. Au passage, j'ai scruté le pavillon de ses oreilles à la recherche d'une identité, d'un tatouage, de quelque chose. Mais rien. Sauf une tique que j'ai enlevée avec le crochet en plastique jaune toujours dans la poche de mon pantalon. La chienne se laissait faire. Je lui disais « Je suis là, c'est fini, tout va bien ». Elle répondait. J'entendais qu'elle me répondait de tout son corps qui s'était remis à trembler pour me signifier sa peur et sa confiance en moi. J'ai aussi compté les doigts de ses larges pattes fourrées, elle en avait 4, plus 2 ergots aux pattes arrière. « Une race de berger », a dit Grig, penché au-dessus de nous. Et encore une fois, j'ai dit « Je suis là ». J'aurais volontiers continué comme ça, et elle aussi. Dans la pénombre qui s'avançait, qui nous enveloppait, quand j'ai écarté le panache de sa queue qu'elle avait rabattu sur son ventre. Les babines de son petit sexe animal déchiré au niveau des commissures étaient poisseuses et fluides, et de vieux sang séché, et la peau du ventre sous le pelage noir d'hématome. J'étais sans voix. Puis j'ai chuchoté encore et encore, « Je suis là, c'est fini. » La petite chienne qui avait à nouveau roulé sur elle-même, présentant son dos, s'était mise à halter violemment, le vent aussi dehors. Agenouillée près d'elle, doucement, je passais mes doigts le long de son échine et j'ai dit, je ne sais quelle instance invisible, « Sévices sexuels sur un animal, crime passible de condamnation. » « Ça s'est toujours fait, » a répondu Grig, « comme d'une planète où les campagnes existaient encore. » J'ai répondu, « Ça n'a rien à voir. Le monde a basculé. »
Alors, c'était la voix de Marie-Christine Barrault lisant un extrait de « Un chien à ma table » de Claudie Hunzinger, qui avait obtenu en 2022 le prix Femina. Merci encore à mon ami Mathieu Tessier de m'avoir éclairé un petit peu cette mémoire à qui il arrive d'être un peu défaillante, surtout quand elle est un petit peu d'humeur chagrin pour ceux qui viendraient de se joindre à nous. Sachez que la première demi-heure de l'émission des Livres Pleins les Oreilles, c'est un hommage à ma compagne des 9 dernières années, ma petite chienne de 9 ans qui a décidé de lever les pattes après une très 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 courte maladie. Et voilà, donc elle m'accompagne et j'ai décidé qu'elle m'accompagnerait aussi aujourd'hui dans ce studio où elle avait d'ailleurs l'habitude de venir. Et ça, c'est quelque chose que je vous avoue, que j'ai jamais dit, mais elle faisait tellement pas de bruit, cette petite puce-là, qu'elle restait assise, les yeux ouverts, elle me regardait parler. Évidemment, elle comprenait pas un mot de ce que je disais, pauvre petite. Et elle ne bougeait pas d'un poil, c'est le cas de le dire. Alors, c'est pour lui rendre hommage que en cette première demi-heure d'émission, je ne vous parle que de livres avec les chiens comme star, comme premier rôle, et qui sont tous des livres qui m'ont marqué beaucoup. Difficile de parler chien, de parler loup, de parler présence animale sans évoquer Jack London.
J'avais aussi envie donc qu'on écoute un extrait de L'appel de la forêt, entre parenthèses, L'appel sauvage. C'est lu par Jean Reynaud. Je pense qu'on dit Reynaud hein, plutôt que Renaud. Reynaud, R-E-N-O. Et ça a été publié en audio, en tout cas, en 2017. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous sommes avec un bon vieux Bock. Bock qui coule une existence heureuse, une vie de chien que je qualifierais de parfaite dans une famille dont le maître de la famille est un juge, c'est le juge Miller. Bock est un chien autoritaire qui prend de la place, mais comment je vous dirais ça? C'est une beauté naturelle. C'est pas le genre de chien dont on va dire mon Dieu qu'il est beau, mais il a une espèce de force tranquille et puis il est intelligent, il est fort aussi. Alors il y a beaucoup d'animaux sur le domaine. Alors c'est lui qui évidemment règne en tant que roi et maître sur ces lieux, du moins chez les animaux. Mais un jour, sa vie va basculer. Un jour où il devient la victime d'un traître d'homme. Et là, il se retrouve vendu à un conducteur de traîneau qui l'emmène dans le Grand Nord américain. Ça, c'est l'histoire. Alors, la vie d'aristocrate, de bon vieux chien sur un domaine où tout est tranquille, eh bien, adieu vate. Et Bock, imaginez, après la vie de château, va devoir affronter son destin dans un univers glacial, un univers sans pitié, un univers où chaque faute, chaque erreur est sévèrement et physiquement sanctionnée. Alors, on se demande, sous la plume de Jack London, si le chien pourra survivre dans ce monde cruel où c'est la loi du plus fort qui, évidemment, règne en maître. Qu'est-ce qui va advenir de cet admirable chien, le jour où, entre autres, il va découvrir avec amertume, puis avec un espèce de plaisir trouble, parce que l'instinct remonte, il va découvrir le goût du sang. C'est une œuvre maîtresse de Jack London, je parle de L'appel sauvage ou L'appel de la forêt, un roman qui a tout pour passionner les jeunes lecteurs, mais les adultes aussi. Il y a dans l'aventure, dans le Grand Nord, en Alaska, parmi les aventuriers et les chercheurs d'or, il y a la découverte de l'univers mythique des pionniers américains et il y a évidemment l'étonnante aventure de Bock, attachant, courageux, qui est un destin hors du commun. Dans l'extrait qu'on va entendre, voilà, c'est le moment où il va quitter ce domaine chéri, où il vit comme un prince.
Il prenait un air impérieux. Quant à Toots et à Isabelle, il les ignorait totalement, car il était roi. Roi de toutes les créatures qui marchaient, rampaient ou volaient dans la propriété du juge Miller, êtres humains compris. Son père, Elmo, un énorme Saint-Bernard, avait été l'inséparable compagnon du juge, et Bock semblait destiné à assumer sa succession. Il n'était pas aussi grand. Il pesait seulement 140 livres, car il tenait aussi de sa mère, Shep, un chien berger écossais. Néanmoins, ces 140 livres, auxquels s'ajoutait la dignité liée à une vie de bien-être et à un respect général, lui permettaient d'arborer un maintien vraiment royal. Pendant les 4 années qui s'étaient écoulées depuis sa naissance, il avait vécu l'existence d'un aristocrate repu. Il se montrait très fier de lui, et même un peu égocentrique, comme finissent souvent par l'être les hobereaux de campagne, du fait de leur situation d'isolement. Mais il avait sauvé l'honneur en ne devenant pas simplement le chouchou de la maison. La chasse et les joies familiales en plein air avaient limité son embonpoint et durci ses muscles. Et comme il appartenait à une race de bêtes qui apprécie l'eau froide, son goût des bains glacés l'avait fortifié et avait préservé sa santé. Voilà donc quel était le chien Bock à l'automne 1897, lorsque la découverte du gisement du Klondike attira dans le nord glacé des hommes venus du monde entier. Mais Bock ne lisait pas les journaux, et il ne savait pas non plus que Manuel, l'un des assistants du jardinier, était une fréquentation peu recommandable. Ce Manuel avait un très grand défaut. Il adorait jouer à la loterie chinoise. En outre, dans sa passion du jeu, il faisait preuve d'une très grande faiblesse. Il croyait en un système, et c'est ce qui le condamnait irrémédiablement. Car l'utilisation d'une martingale exige de l'argent. Alors que les gages d'un aide-jardinier ne parviennent pas à satisfaire les besoins d'une épouse et d'une nombreuse progéniture. Le juge a assisté à une réunion de l'association des producteurs de raisins secs et les garçons étaient occupés à monter un club d'athlétisme lors de cette nuit mémorable où Manuel commit sa traîtrise. Personne ne le vit sortir avec Buck par le verger. Buck croyait simplement faire une petite promenade. À l'exception d'un homme solitaire, personne ne les vit arriver à la petite halte ferroviaire connue sous le nom de Collège Park. Cet homme parla avec Manuel et on entendit tinter des pièces de monnaie. « Vous pourriez emballer la marchandise avant de la livrer ?» déclara l'étranger d'un ton bourru. Et Manuel, avec une grosse corde, fit un double tour au cou de Buck, en dessous du collier. « Tordez-la, ça suffira à l'étrangler, » dit Manuel. Et l'étranger approuva en grommelant. Buck avait accepté la corde avec une dignité tranquille. À coup sûr, c'était un événement inhabituel, mais il avait appris à faire confiance aux hommes qu'il connaissait et à leur reconnaître une sagesse supérieure à la sienne. Mais quand l'extrémité de cette corde se retrouva dans les mains de l'étranger, il se mit à pousser des grognements menaçants. Il avait simplement manifesté son mécontentement, car il croyait dans son orgueil qu'il suffisait de le manifester pour être obéi. Mais, à sa grande surprise, la corde se resserra autour de son cou et lui coupa le souffle. Pris d'une rage subite, il se jeta sur l'homme, qu'il arrêta dans son élan, le saisit près de la gorge et d'une torsion à droite, le renversa sur le dos. Alors la corde se resserra encore plus impitoyablement. Buck, furieux, avait beau se débattre, sa langue pendait et sa vaste poitrine haletait en vain. Jamais au cours de sa vie il n'avait été traité d'une manière aussi ignoble, et jamais non plus il n'avait été aussi en colère. Mais ses forces déclinèrent, ses yeux devinrent vitreux, et il avait perdu conscience quand le train s'arrêta au signal des deux hommes qui le jetèrent dans le fourgon à bagages.
Que c'est touchant tout ça. Extrait de L'Appel sauvage, L'Appel de la forêt de Jack London, lu par Jean Reynaud. Et cette histoire, l'histoire de Buck. Il y en avait plein d'autres aussi, Un Croc Blanc d'ailleurs, du même auteur. Ou encore, si vous êtes capable d'écouter des livres audio en anglais, ruez-vous sur Timbuktu ou Tombouctou en français, mais il n'existe pas en audio. Timbuktu de Paul Auster. C'est le livre qui m'a le plus touché sur les chiens, avec peut-être Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Allez, au panier, les chiens, ou au ciel, tiens, où vous voulez. Retour sur le plancher des vaches, ou si vous préférez, sur la terre des hommes. En fouillant à la recherche de sujets intéressants pour cette émission, ou en tout cas de sujets dignes d'intérêt, je suis tombée sur celui-ci qui raconte que le retour de Donald Trump risque bien de voir gonfler le compte courant de Margaret Atwood. Pour la descendance, ça va être parfait. Si l'on en croit les résultats de la précédente élection, je vous en reparle un petit peu plus tard. Et puis, il y a ici au Québec un livre audio qui m'avait échappé, c'est celui de Mariana Mazza. Qu'on l'apprécie ou pas, moi c'est quelqu'un qui m'interpelle, je dois dire, dans sa désarmante lucidité, tiens, et honnêteté aussi. Alors je suis allée écouter un extrait de Montréal Nord, que je vais vous partager bien sûr, puisque c'est maintenant en livre audio. Après, il y aura une ou deux nouveautés, dont la bio de Alexei Navalny. C'est sorti sous la plume de je ne sais quel journaliste, mais ce que je sais, c'est que c'était dans The Guardian. Ce journaliste a dévoilé que suite au vote outre-Atlantique, mais de nos voisins, chez nous, certains lecteurs ou certains simplement tristes spectateurs ont plongé dans des récits dystopiques des plus classiques aux plus sombres. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. En 2016, après l'arrivée à la Maison-Blanche pour la première fois de Trump, La Servante écarlate de Margaret Atwood avait déjà connu un très vif intérêt. Vous savez, cette œuvre qui symbolise les craintes d'un régime autoritaire et de politiques complètement rétrograde. D'ailleurs, l'agent de la romancière avait souligné, non sans ironie, qu'elle était la seule personne à avoir bénéficié de l'élection de Donald Trump. À l'époque, George Orwell aussi, avec 1984, en avait également profité. Là, on est en 2024 et rebelote, Trump repasse et les ventes de Margaret Atwood se retrouvent en hausse. La Servante écarlate qui a été publiée, je vous le rappelle, en 1985, vient d'effectuer un retour fulgurant, vient de grimper de 400 places. Je ne sais pas quel est le barème de base, mais je pense que c'est beaucoup pour atteindre le top 3 des ventes sur Amazon. Faut-il vous rappeler que cette espèce de futur décrit une société où la religion dicte la politique, instaurée par un système autoritaire très strict qui assigne à chacun un rôle et une couleur bien définis, notamment les femmes qui subissent une dévalorisation poussée jusqu'à l'esclavage, qui ne deviennent que des ventres. En 2017, lors d'une interview, Atwood avait réagi à ce phénomène. Elle avait dit « Les Anglais ont dit « Ah, c'est une très bonne histoire ». Il ne se faisait manifestement pas trop de soucis. Les Canadiens, avec nervosité, ont dit « Est-ce que cela pourrait arriver ici ? » La suite, les testaments... Ah oui, non, attendez, là, il me manque une phrase. C'est parce qu'il y a les Américains, eux, qui avaient dit « Combien de temps nous reste-t-il ? » Donc, c'était... Je vous la refais parce que je vous l'ai ratée. Les Anglais ont dit, en parlant de ce livre, « La Servante écarlate », c'est une très bonne histoire. Les Canadiens ont dit « Est-ce que ça pourrait arriver ici ?» Et les Américains ont dit... Combien de temps nous reste-t-il ? Alors voilà, les testaments et la suite et la fin de cette sordide histoire qui malheureusement n'existe pas en livre audio, du moins pas en français, ça existe en anglais. Alors nous, on va réécouter un extrait de La Servante écarlate lu par Sarah-Jeanne Labrosse.
Le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux de paniers de basketball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public. Et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrées de chewing-gum et de parfums que dégageaient les jeunes spectatrices. Que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon. Puis parée d'une unique boucle d'oreille. Les cheveux en épi, striés de vert. On avait dû y organiser des balles. Leur musique y traînait encore. Palimpseste de sons non entendus. Un style succédant à l'autre. Courant souterrain de batterie. Plaintes désespérées. Guirlandes de fleurs en papier mousseline. Diables en carton. Boule de miroir pivotante, poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver et qui n'était jamais comme ses mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui se passait sur le siège arrière, dans le parking ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ce don de l'insatiabilité ? Il était dans l'air, et il y demeurait, comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans les lits de camp qui avaient été disposés en rangée, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton, comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous plions soigneusement nos vêtements et les disposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était en veilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet, pourtant, même à elle, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel. Et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, deux fois par jour. à faire deux par deux le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillon de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous. Quelque arrangement conclu, quelque marché, nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tentes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, Ju.
C'est la voix de Sarah-Jeanne Labrosse qu'on vient d'entendre lisant un extrait de La Servante écarlate sur la musique qui a servi de trame sonore à la, à la télésérie qui a été diffusée, est-ce sur Netflix ou sur Prime Video, je ne sais plus trop. En tout cas, la série a été diffusée, elle est encore là d'ailleurs pour les gens que ça pourrait intéresser. Allez, on va complètement changer de son, d'intensité, d'humeur avec Mariana Mazza, qui a écrit dans son livre Montréal Nord : Je suis une enfant de la chaleur dans un pays glacial. Au moment de ma naissance, ma mère avait déjà envisagé de quitter mon père, de le laisser partir pour qu'il guérisse de son alcoolisme. J'avais 2 ans quand il est parti, sur un coup de tête, sous. En Uruguay, sa terre natale, pour ne plus revenir. Quand je demande à ma mère si elle a déjà aimé mon père, elle me répond toujours « J'aimais ton père avant 10 heures du matin. Après, je ne le reconnaissais plus. Je suis née au Canada grâce à l'alcool. » On va l'écouter, Mariana Mazza, dans un autre extrême et lu par elle, cette fois-ci, de Montréal Nord, cette espèce de rubrique qu'elle a écrite il y a maintenant, c'était en 2023, et c'est sorti en septembre de cette année, en 2024, en livre audio chez Audible. C'est une exclusivité. Cette fille, Mariana Mazza, qui peut déranger aussi fort qu'elle peut émouvoir, une fille qui n'a jamais su faire rire sur demande quand elle était petite, c'est du moins ce qu'elle raconte aussi dans le bouquin, quand on lui demandait de faire le pitre, elle se mettait à pleurer tellement elle ne voulait pas. Mais quand on s'y attendait le moins, elle faisait pleurer de rire son entourage. Et alors c'est à découvrir dans ce livre, Mariana Mazza, dont on écoute un extrait maintenant, c'est lu par elle-même.
Si on m'avait dit que c'était un club de bowling ou simplement un immeuble abandonné, je l'aurais cru. De loin, c'était juste un local vide avec des lumières multicolores rotatives qu'on voyait par les fentes des rideaux décolorés. Mon souvenir de cet endroit est hivernal et froid. Lorsqu'on ouvrait la porte extérieure, un grand escalier dégarni menait à une porte blanche munie d'une poignée dorée et usée. Juste à côté de cette poignée, il y avait des photos encadrées du joueur de soccer Diego Maradona et une carte de la ville de Buenos Aires. Avec le temps, les cadres étaient rendus à l'envers et personne n'osait les replacer. Ça faisait maintenant partie du décor. Dans les marches, l'odeur de l'hiver, celle qui sent le frigidaire à bière de dépanneur, envahissait mes narines. Mais lorsque la porte d'en haut s'ouvrait, c'était une orgie de fritures, de barbecue et de parfums de madame qui avait chaud à force de danser. La porte qui menait à l'extérieur créait une succion tellement forte que chaque fois que je jouais avec mes amis dans les interminables marches de l'entrée, une bourrasque entrait et nous faisait grimacer. J'ai passé plus de temps dans cet escalier que dans le club en tant que tel. La musique et le bruit des gens qui dansaient étaient tellement forts à l'intérieur et il faisait si chaud qu'on préférait rester dans les marches à subir les secousses de vent. On parlait pas de choses importantes. On avait 8 ou 9 ans et on voulait simplement être des enfants. Se donner des petits défis dans l'escalier, quand les gens entraient, juste pour rire et passer le temps. Du genre, un de nous criait et la personne qui montait les marches devait se retourner et ne pas deviner qui de nous avait crié. Chaque fois, j'éclatais de rire parce que c'était toujours moi. L'escalier n'avait pas de tapis, juste de la slotch et des petites roches noires accumulées qui rendaient la montée périlleuse et faisaient peur aux personnes âgées. Il devait se tenir à la rampe en bois qui menaçait toujours de céder. Tous les vendredis, les mêmes visages se pointaient dans cette cage d'escalier bleu poudre décorée des drapeaux argentins et uruguayens. La même petite madame ronde avec le manteau en fausse fourrure qui regardait toujours où elle mettait les pieds avec un sourire inquiet. Le même vieillard qui venait seul, souriait dans le vide et enlevait son chapeau dès qu'il passait le seuil de la porte. Les mêmes enfants qui arrivaient en courant et en criant et qui, après une heure, s'endormaient sur les genoux de leur mère. J'aimais être assise sur la dernière marche de l'escalier pour observer du haut de mon trône chaque personnage du vendredi qui entrait pour se réfugier du froid dans la chaleur du club argentin. À cette époque, j'étais la fille de Sonia. Mon identité s'arrêtait là où la présence de ma mère commençait. Ma mère et moi arrivions vers 21h30 quand la musique était basse et les stroboscopes éteints. Vers 23h30, quand tout le monde était arrivé, le DJ augmentait le volume de la musique et faisait jouer sa fameuse liste, toujours la même depuis 10 ans. J'allais toujours le voir pour lui demander de jouer des chansons du groupe Aqua ou des Venga Boys. Au début, il acceptait avec le sourire. Quand il me donnait ce que je voulais, j'allais lui en redemander. Après 3 demandes, il acquiesçait en regardant ailleurs. Il n'était plus capable d'en prendre. J'ai recroisé ce DJ dans un spectacle de Mark Anthony plusieurs années plus tard. Il était assis derrière moi et quand il m'a vu, il m'a dit « La petite fille qui voulait toujours qu'on joue sa musique. » Les personnes qui foulaient la piste de danse en premier étaient les mêmes qui restaient pour la chanson de clôture « Lamento Boliviano ». Quand cette chanson commençait, c'était notre signal à tous. On ramassait les manteaux, les parents réveillaient les enfants endormis sous les tables et la place se vidait tranquillement. Chaque année, un concours de déguisement pour adultes avait lieu le soir de l'Halloween et je n'avais jamais le droit d'y aller. Ma mère me disait que je m'emmerderais et que personne de mon âge n'y serait. C'était mal me connaître de penser que j'avais plus de plaisir avec les gens de mon âge. Ma mère m'avait acheté chez Jean Coutu un masque du boxeur Mike Tyson. Il avait l'air tellement réel que j'ai convaincu ma mère de me laisser aller au concours de déguisement en lui disant que personne ne saurait que j'étais un enfant. J'ai mis des bottes Avirex rouge vin du genre construction et les vêtements de mon frère pour que ça fasse plus ample et vrai. Ma mère était déguisée en sorcière sexy. Elle avait un chapeau puis une guirlande de citrouille autour du cou avec le buste bien en évidence. Pour moi, c'était suffisant pour comprendre que c'était pour cruiser. J'ai passé la soirée à aller uriner dans les toilettes des hommes, à faire semblant de boire de la bière et à m'asseoir à la table des hommes qui jouaient aux cartes. Ma mère me regardait de loin et affichait un sourire fier. Ma transformation était assez audacieuse pour lui rappeler que j'avais seulement 10 ans et que je jouais bien mon jeu.
Quelle nature, quand même, cette fille-là. C'est ça, comme je disais, il y a des fois où je ne sais pas si ça mérite, si ça m'agace, mais non, je me dis, mon Dieu, là, c'est vraiment quelqu'un, finalement, que j'aurais voulu connaître, ça, aller prendre à un moment donné un verre avec elle. Parce que, non, je pense que c'est quelqu'un de rare, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui a une personnalité tellement originale, ça, c'est certain. Bon, on va passer à quelques nouveautés, si vous le voulez bien. S'ils finissent par me liquider, ce livre sera mon testament, avait écrit le principal opposant à Vladimir Poutine avant de mourir en détention. Ses mémoires posthumes s'intitulent Patriote et je parle évidemment d'Alexeï Navalny. Le livre audio est lu par Sylvain Agaessé. C'est un récit réellement vivant, très captivant, un récit qui comprend aussi une partie de correspondance inédite depuis sa prison. Alexeï Navalny qui raconte sa carrière politique, qui raconte les nombreuses tentatives d'assassinat dont il a fait l'objet, ainsi d'ailleurs lui, et que ses proches aussi, hein, parce que ses proches ont aussi été victimes, ou du moins il y a eu tentative aussi d'assassinat auprès des siens. Et puis il raconte aussi cette campagne acharnée qu'il a menée avec son équipe contre un régime de plus en plus totalitaire. C'est écrit avec beaucoup de franchise, du courage, de la passion, de l'esprit. Patriote, c'est un peu la dernière lettre d'Alexeï Navalny
au monde, récit émouvant des dernières années qu'il a passées dans une prison connue pour son extrême brutalité. Un rappel des raisons pour lesquelles les libertés individuelles sont si importantes, et puis c'est aussi ce livre un puissant appel à poursuivre l'œuvre pour laquelle il a sacrifié sa vie. Sa femme, Yulia Navalnaya, a écrit ceci. Ce livre témoigne non seulement de la vie d'Alexeï, mais aussi de son engagement indéfectible dans la lutte contre la dictature, une lutte pour laquelle il a tout donné, y compris sa vie. Au fil des pages, les lecteurs apprendront à connaître l'homme que j'aimais profondément, un homme d'une intégrité et d'un courage inébranlable. Partager son histoire permettra non seulement d'honorer sa mémoire, mais aussi d'inspirer à d'autres personnes de défendre ce qui est juste et à ne jamais perdre de vue les valeurs qui comptent. Extrait de Patriote d'Alexeï Navalny par Sylvain Agaès.
Par chance, les toilettes étaient libres. Toute action exige réflexion, même si on ne s'en rend habituellement pas compte. Mais en cet instant, comprendre ce qui se passait et décider ce que j'allais faire nécessitait un effort conscient de ma part. Ce sont les toilettes. Trouvez le loquet. Il y a des objets de différentes couleurs. C'est probablement le loquet. Pousse-le dans ce sens. Non, dans l'autre. C'est bon. Voilà le robinet. Il faut appuyer dessus. Comment faire? Ma main. Où est ma main? La voilà. De l'eau. M'éclabousser le visage. Dans un coin de ma tête, il n'y a qu'une pensée qui ne réclame aucun effort et occulte toutes les autres. Je n'en peux plus. Je me rince le visage, je m'assieds sur la cuvette des toilettes, et c'est alors que pour la première fois je comprends. Je suis foutu. Je ne me suis pas dit « je crois que je suis foutu ». Je l'ai su. J'accomplis un dernier effort pour faire mentalement l'inventaire de mon corps. Le cœur, pas de douleur. L'estomac, ça va. Le foie et les autres organes internes, aucun malaise. Dans l'ensemble, l'horreur. C'est trop, et je suis sur le point de mourir. Péniblement, je m'asperge le visage une seconde fois. Je veux regagner ma place, mais j'ai peur de ne pas pouvoir sortir des toilettes tout seul. Je n'arriverai pas à trouver le loquet. Je vois tout très nettement. La porte est devant moi, le loquet est bien là, j'ai suffisamment de force, mais j'ai le plus grand mal à concentrer mon regard sur ce satané loquet, à tendre la main et à le faire coulisser dans le bon sens. Je réussis à sortir. Je ne sais comment. Des gens font la queue dans le couloir et je vois bien qu'ils ne sont pas contents. J'ai dû rester dans les toilettes plus longtemps que je ne croyais. Je ne me comporte pas comme si j'avais trop bu. Je ne titube pas. Personne ne me montre du doigt. Je ne suis qu'un passager, comme les autres. Kira m'a dit plus tard que j'avais eu l'air parfaitement normal quand j'avais quitté mon siège côté hublot et que je m'étais faufilé assez facilement devant Ilia et elle. J'étais simplement très pâle. Debout dans l'allée centrale, je me dis qu'il faut que je réclame de l'aide. Mais que demander au steward? Je ne peux même pas exprimer clairement ce qui ne va pas, ni ce dont j'ai besoin. Je me retourne vers les sièges, puis je fais demi-tour. Je suis maintenant face au galet, 5 mètres carrés occupés par des chariots repas, l'endroit où on se rend pendant un long vol quand on a envie de boire quelque chose. Les vrais écrivains sont des gens bizarres, vous savez. Quand on me demande quel effet ça fait de mourir des effets d'une arme chimique, deux associations d'idées me viennent à l'esprit. Les détraqueurs de Harry Potter et les Nazgûl du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Le baiser d'un détraqueur est sans douleur. La victime sent la vie la quitter, c'est tout. L'arme principale des Nazgûl est leur faculté terrifiante de vous vider de toute force et de toute volonté. Debout dans le couloir, je sens un détraqueur m'embrasser et la présence d'un Nazgûl à proximité. L'impossibilité de comprendre ce qui m'arrive me submerge. La vie me fuit, et je n'ai pas la volonté de résister. Je suis foutu. Cette idée remplace rapidement, puissamment et intégralement « je n'en peux plus ». Le steward me regarde, déconcerté. Je crois que c'est celui qui a fait semblant de ne pas voir mon ordinateur portable. Je fais un dernier effort pour trouver quelque chose à lui dire. À mon grand étonnement, je réussis à balbutier « J'ai été empoisonné, je vais mourir. » Les voix se font indistinctes et les derniers mots que j'entends sont ceux de la femme qui crie « Non, restez éveillé, restez éveillé !» Puis je meurs. Attention, spoiler, je ne suis pas mort.
Oui, c'est bien écrit, c'est bien lu, cette bio écrite par Alexei Navalny, celui qui, entre autres, avait été empoisonné juste avant de prendre l'avion. Et là, c'est l'épisode qu'il nous décrit dans ce livre « Patriote » qui se retrouve maintenant en livre audio sur le catalogue de chez Lizzie, L-I-Z-I-E, je le précise parce que parfois, quand chez Lizzie, vous ne pourrez pas retrouver ça sur Audible, par exemple. Mais si vous faites « Livre audio Patriote », au singulier, vous allez tomber forcément sur le livre audio que vous aurez envie d'entendre. Un petit dernier pour la route, le prix du Quai des Orfèvres 2025 d'Olivier Tournu avec un T, lu par Camille Lamache. Ça s'appelle Post-Mortem. Jean-François est un type qui collabore à Babelio, qui est un site que j'aime bien pour avoir les avis parfois directement des lecteurs et même, il arrive, des auditeurs de livres audio. Et ce Jean-François, qui a lu ce livre post-mortem, écrit « Quand on suit l'arrivée des prix littéraires en novembre, les amateurs de polar ne ratent généralement pas le prix du Quai des Orfèvres. » Vous aurez compris qu'il l'a obtenu, c'est le prix du Quai des Orfèvres 2025. Oui, c'est pas une erreur, je dis bien 2025. Un prix qui révèle souvent de futurs talents parmi des auteurs jusque-là inconnus. Pas de dérogation à cette règle cette année 2025 avec le premier ouvrage d'un auteur dont on devrait reparler bientôt, à mon avis, dit Jean-François. En effet, pour moi, ce nouveau lauréat me semble avoir réussi son entrée dans un monde plutôt impitoyable. Le prix du Quai des Orfèvres 2025 est un bon cru. Pour moi, il nous dit que ça se déroule dans le monde opaque et sans pitié des trafiquants de faux tableaux. Et que de fil en aiguille, ou plutôt de pinceau en pinceau, ça va éclabousser du beau monde, et ce jusqu'au sommet de l'État. En voici un extrait.
Ces papilles ont le goût de la mort. La douleur envahit son corps comme un ouragan saccage une ville. Il entr'ouvre ses yeux couverts de sang. Son visage boursouflé sourit. Il aperçoit sa toile posée sur un chevalet. Il admire les lignes parfaites du tableau. Les couleurs scintillantes de jaune et de vert respectent la création originelle. Des larmes de fierté rouges de sang coulent et inondent son visage. C'est la dernière fois qu'il voit la lumière du jour. En retrait, j'aurais pu dire « Ne te retourne pas ». Mais comme j'étais certain qu'on n'écoute pas ce genre de phrases, je l'ai frappé. Au sol, son visage afficha de la peur et un pourquoi qui ne sortait pas. Convaincu qu'il allait le formuler, je lui ai mis un coup de pied dans le ventre, plus brutal que le premier, et trois autres éclatèrent son arcade sourcilière droite. Ça lui ôta tout désir de discuter. Quand j'ai prononcé son nom, j'ai senti qu'il cherchait qui j'étais, d'où nous nous connaissions. À sa place, j'aurais fait pareil. Mais avec ce qu'a pris son cerveau, il n'était plus en état de se souvenir. Il marmonna un « mais » plein de douleur. Là, j'ai coupé court son envie de débattre en comprimant sa trachée avec mon coude, puis j'ai tiré la chaise sur un mètre, saisi sa tête que j'ai cognée contre un mur. Sa tête eut un mouvement démantibulé. Et puis, il ne bougea plus. J'ai retiré ma cagoule et me suis frotté le crâne. Ça m'aide à redevenir quelqu'un. Désormais, je tourne autour de ma proie comme un lion avant de l'attaquer. D'abord les yeux. Dans le creux des orbites, je coule de la peinture. Les teintes mélangées au sang colorent le visage. Ocre à gauche et un vermillon orangé à droite. Je retire ma combinaison noire intégrale. Dessous, un trois pièces coupé dans du beau tissu. Dans le reflet d'une fenêtre, j'ajuste le nœud de cravate quand des murmures proviennent du palier. Un œil collé au judas, je vois deux types pester contre les travaux de rénovation. Derrière la porte, je prie pour qu'ils se barrent. C'est chose faite, 10 minutes après. Pour cette mission, on m'a ordonné de rapporter la toile. Mais l'idée de croiser quelqu'un avec, même emballé, ne me plaît pas. Je la laisse sur le chevalet, à 1 mètre de Riquet. Dehors, plus de kermesse. La vie urbaine a repris ses droits. La température tranche avec la fraîcheur de la cage d'escalier. Il y a 2 jours, j'ai remarqué le panneau d'une agence immobilière accroché à un balcon de l'immeuble d'en face à propos de la location d'un appartement au 7e étage. J'ai convaincu l'agent immobilier, pressé d'en finir, que j'apprécierais qu'il me le réserve durant 3 jours, le temps de rassembler les pièces nécessaires pour le contrat de location. Je lui ai remis 200 euros, qu'il a empoché comme s'il s'agissait d'une pratique courante. Lors de la visite, l'agent a reçu un appel qu'il a pris sur le balcon. J'ai saisi la clé laissée dans la serrure pour en faire un moulage dans de la pâte à modeler, que j'ai reproduite le soir même.
Post-mortem, prix du Quai des Orfèvres 2025 d'Olivier Tournu, lu par Camille Lamache. Voilà ce qui vient mettre un terme à l'émission Des livres plein les oreilles pour cette semaine. Merci à mon ami Mathieu Tessier. Merci à vous d'être à l'écoute. Et puis, bonne lecture, bonne écoute et à la semaine prochaine.